Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est une émission qui vous donne des conseils de trucs en on. Non, j'ai pas réussi à... Je voulais faire des rimes en on, mais j'ai pas vraiment trouvé. Donc bonjour à tous, on vous recommande des produits culturels. Oui, mais voilà, c'est ce que je voulais pas dire. Corben me plante le truc. ton rire, Pascal, me donne envie de rire de la même manière. C'est étrange, cette influence que tu as sur moi. Donc, nous vous conseillons des produits culturels, des films, des livres, des albums, des BD, tout ça. Trois par épisode, un épisode toutes les deux semaines. Et nous avons, bien sûr, qui dit trois recommandations, dit trois animateurs. Moi, je suis Patrick Béja. Lui, c'est Corben. Et lui, c'est Pascal Mabille. Messieurs, comment allez-vous? Êtes-vous en forme?
Oui. Bonjour Patrick, tout va bien. Bonjour. Merci.
Non, c'est tout roule la patate.
Ouais, tout roule la patate, super.
Très écoute, fier d'être
je pense qu'on a trouvé
numéro 2 avec nous-mêmes. Ah, déjà que le premier, c'était quand même... Il y a eu beaucoup de succès pour le premier avec celui de Pascal. D'ailleurs, je pense que tu devrais nous prendre en récurrent, en fait. Hein. Plutôt que de t'emmerder avec des quoi de boss et je sais pas quoi. tu vois, tu nous prends en récurrent. Là, au moins, t'as plus de soucis.
C'est pas faux, c'est pas faux. Je vais y réfléchir. En tout cas, déjà, on va faire une série de 4 épisodes et puis on une saison de 4 épisodes. On va voir si vous êtes renouvelé en fait, en fonction des ratings, tout ça, à la fin de...
Ah, c'est comme le foot. Hein.
Ouais, un petit peu. Ou les séries américaines, tu sais.
Ouais, ouais.
Bon, vous faites un bon score sur les hommes de 18 à 35 ans. C'est notre cœur de cible. C'est à eux qu'on veut vendre nos produits de pub. Donc ça va. Sauf qu'on n'a pas de pub. Mais bon.
Ah ben Pascal, ça sera un peu ton Michel Drucker, tu vois. Indélogeable. Là, tu l'as invité. Dans 40 ans, il est encore là. Laisse tomber.
C'est possible. Enfin, on verra. On verra comment ça se passe. Mais pour ne plus trop faire attendre nos merveilleux auditeurs, je vais commencer à positronner, à vous donner une recommandation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série. Une série qui s'appelle The Good Wife. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette série.
Pas vu, mais tout le monde me dit que c'est exceptionnel.
Ouais. Bon, exceptionnel, j'irai peut-être pas jusque-là. C'est quand même un petit peu exagéré. Mais c'est vraiment une... C'est le genre de série qui est juste un truc sympa, facile à regarder, qu'on peut se regarder à n'importe quel moment et qui fait toujours plaisir en fait. C'est
un
pas
peu
la
chiant,
série.
Quoi.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas une série qui va vous capturer et vous garder en fait. Vous allez plus pouvoir vous arrêter jusqu'à la fin de la saison. C'est une série juste sympa quoi. C'est une série limonade. Genre c'est une bonne limonade, tu vois. T'es
c'est agréable à boire quand t'es.
Ouais, pas tout à fait. Bref, c'est l'histoire d'une mère de famille qui est mariée à un. Au début, il est prosecutor, bref, il a
procureur.
Une position de, le procureur, voilà, qui est marié au procureur de l'État ou de la ville, et il a été attrapé en train de la tromper avec des prostituées. Donc évidemment, totalement illégal, il va en prison et elle doit se prendre en charge après 20 ans à avoir été simplement le soutien familial du mec et pour l'image et les campagnes et tout. Et elle n'a pas travaillé depuis 20 ans. Et donc elle reprend sa carrière et elle se fait engager dans une firme d'avocat puisqu'elle est avocate de formation et à partir de là vont s'enchaîner tout un tas. Enfin c'est même pas qu'il y a plein de choses qui vont s'enchaîner mais c'est l'histoire de cette nana qui est dans cette firme dans ce cabinet d'avocat très prestigieux et son parcours et le parcours des personnages qu'il y a autour et la force de la série en fait c'est pas forcément cette histoire finalement c'est juste une excuse à pour toutes les situations qu'on va rencontrer mais la force en fait c'est d'une part le jeu de Juliana Margulies, je sais pas comment ça se lit mais c'est son jeu à elle parce qu'elle est excellente, tout en retenue, tout en force. Elle est super bonne. Les autres acteurs sont très bons aussi. Mais, oh, les gars, merde, je suis en train de vous dire que c'est une bonne actrice, là.
D'accord. J'étais sûr qu'il allait réagir. Je sentais.
Et donc, il y a, en fait, la manière dont je décrirais la série, c'est que c'est un parfait équilibre entre tout ce qu'on pourrait attendre d'une petite série agréable. C'est-à-dire que c'est à la fois drôle, à la fois poignant parfois, à la fois surprenant. Il y a des avocats parfois qui font des trucs qui pourraient nous laisser penser à... qui pourraient nous faire penser à Lee McBeal, par exemple, avec les avocats un peu loufoques. Et puis, il y a des moments vraiment émouvants, des moments un petit peu angoissants. Enfin, il y a vraiment de tout... magnifiquement dosé. Et la chose que je dirais en plus sur cette série, c'est que c'est, à ma connaissance, sans doute la seule série et la seule production audiovisuelle que j'ai jamais vue qui traite la chose technologique et Internet de manière complètement cohérente. C'est-à-dire qu'il doit y avoir chez les auteurs de la série des gens qui sont vraiment des geeks et des mecs qui suivent toute l'actualité tech parce qu'ils intègrent de manière cohérente à disons un épisode sur trois ou quatre de temps en temps quand c'est cohérent avec l'histoire, mais ils intègrent des trucs technologiques et les questions légales que ça pose de manière vraiment intelligente. Ils ont parlé de récemment, par exemple, il y a eu des histoires sur, je sais pas moi, les bitcoins, il y a Reddit qui est intégré, il y a Twitter, il y a tous ces trucs-là qui sont intégrés avec, d'une part, beaucoup de réalisme, une bonne dose de respect aussi, c'est-à-dire qu'on traite pas ça de manière un petit peu marrante, clownesque, ou pas trop. Et c'est à chaque fois, ça fait plaisir de voir que ils ont réussi à le rendre, à l'intégrer à l'histoire et à ne pas trahir ce que c'est dans la réalité. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une super série. Il faut quand même.
Sérieux. Si t'aimes ça, regarde Plus belle la vie. Hein, tu vas plus pouvoir en décrocher. Parce que c'est exactement là ce que tu viens de me décrire. Tu remplaces The Good Wife par Plus belle la vie, tu reconnais tout, quoi.
C'est vrai.
La même chose. Ah ouais. À part les histoires d'avocats, mais c'est la même chose.
D'accord.
Tu verras.
Bon. Je sais pas s'il vient de te casser ta.
Non. Mais je. Ah. Je veux
pas. Non, mais c'est vrai. Il paraît. Je ne regarde pas Plus belle la
vie. Même sur les trucs technologiques. Hein.
Mais il paraît qu'ils sont super dans. Ils collent à l'actualité. Et c'est très réaliste.
D'accord. Bah écoute, peut-être qu'il faudra que je me lance un jour. On verra. J'hésite un peu, mais peut-être. Si Corben m'en fait la recommandation, c'est vrai que tu adores, toi. Donc. Donc, c'est pour qui ? Je dirais que c'est pour tous parce que c'est facilement consommable et appréciable par tout le monde. Il faut peut-être que c'est mieux si on aime bien les histoires d'avocats, mais quand même, c'est pas uniquement ça de là que vient l'attrait. Donc, je le recommanderais quand même pour tout le monde, je pense. Donc voilà, The Good Wife.
Bien, je note parce que ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent et je pense que ça fait beaucoup trop de gens pour passer à côté.
Tu peux pas donner envie. Mais moi, j'aime bien les séries où il y a de la violence et du sexe. Et là,
oui, d'accord.
C'est trop de la violence entre prisonniers. Hein,
Bon, j'essaierai d'en trouver une autre alors. Ah, bon.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que je disais sur. Oui, tu disais, Pascal. Plusieurs personnes te l'ont recommandé. Je pense que c'est très important de ne pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire.
Non. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des gens extrêmement différents qui ont apprécié. Donc je trouve qu'il y a une forme d'universalité dans la série qui me paraît intéressante, en fait. C'est ça que je trouve vraiment particulier.
Et en plus, accessoirement, ils sont très égalitaristes pour les. Enfin, il y a plein de personnages féminins très forts et très intéressants, sans qu'elles perdent ce qui fait leur féminité. Et ça, c'est quelque chose que Maria, une Scandinave, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que moi, j'ai toujours été un petit peu de ce bord-là. Mais c'est très intelligemment fait. C'est peut-être ça, en fait, la caractéristique de la. T'as pas compris?
Moi non plus, mais.
D'accord. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des personnages féminins qui sont forts et intelligents et et qui font bien leur boulot et tout, mais ouais. ils les transforment pas en mecs, tu vois. Et c'est pas que elles sont efficaces parce qu'elles sont
elles prennent les caractéristiques des clichés. C'est ça, série, les clichés, ouais,
c'est ça voilà, exactement.
Les clichés de la chef de police ou de la chef ouais, machin qui.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Sarah, des nanas
qui est assez mec finalement, ouais. par exemple. Hmm.
Et mais donc la série, la manière dont la, sa plus grande qualité en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la série. C'est une série intelligente. Donc voilà, bref, ok, je m'arrête là. Corben, c'est à toi.
Moi, je vais vous parler d'un livre, mais au-delà du livre, en fait, je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Mike Horn. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un gars qui a 47 ans. Enfin, j'ai rien sur Wikipédia, il est né en 66, donc il a 47 ans maintenant, qui est sud-africain à l'origine, parce qu'il était dans les forces spéciales en Afrique du Sud, et il a immigré en Suisse dans les années 90, voilà, et donc, ça, on va dire, sa carrière post-force spéciale a commencé là, où en fait, ce gars, il est aventurier, mais aventurier, pas au
genre,
sens...
Genre, c'est son métier.
Ouais, c'est un peu son métier, sa passion, sa raison de vivre, mais c'est un pur indur, quoi. C'est un gars, voilà, qui rigole pas, quoi.
Un mercenaire, en fait.
Je vais vous faire un peu sa bio, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. En 95, le mec a été au Costa Rica, et il a pété le record du monde de descente de la plus haute chute d'eau du monde, qui fait quand même 22 mètres, et il l'a descendu en hydrospeed. Je sais pas si vous voyez ce que c'est l'hydrospeed, mais c'est une espèce de coque en plastique, dans lequel on est à moitié dedans, enfin ça protège en fait, mais les jambes dépassent, quoi, un peu comme la planche à la piscine si tu veux, sauf que ça te couvre le ventre, etc. Et donc il a descendu ce truc là en hydrospeed. C'est un truc qui est fait pour descendre les rivières, un peu les kayaks, enfin un peu style kayak, quoi, mais dans lequel on est dans l'eau, quoi, on nage, quoi, en fait. Donc il s'est tapé ça en 95. En 97, il s'est dit, tiens, si je faisais la même chose sur l'Amazon, et il a mis un an et demi à descendre l'Amazon en hydrospeed. C'est-à-dire que pendant un an et demi, il était dans la flotte, à camper sur le bord de l'eau. Voilà, bouffer des serpents et machin. et puis, à partir de là, il s'est dit, tiens, je vais faire un truc encore plus fou. Je vais faire le tour du monde, mais au niveau de l'équateur. Et sans moteur, sans rien du tout. Donc, tout à pied, en vélo un petit peu, je crois aussi, en kayak, voilà, en voile. C'est-à-dire, quand il devait traverser des océans, il faisait de la voile, voilà, du bateau à voile ou ce genre de choses. Et donc il a fait un tour du monde complet. Alors au niveau de l'équateur, donc vous voyez un peu tous les pays que ça traverse, et sans s'éloigner de l'équateur. C'est-à-dire cette ligne imaginaire, il l'a
suivi vraiment
pendant,
sur l'équateur, quoi.
Voilà, pendant un an et demi. Alors on va dire à quelques kilomètres près, hein, en haut, en bas, etc. Mais il est vraiment resté dans cette tranche-là. Et donc pendant un an et demi, il a parcouru 40 000 kilomètres. Et donc moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait, parce qu'il a sorti un livre qui s'appelle Latitude Zéro, qui est un bouquin assez génial, parce qu'en fait, il raconte vraiment tout ce voyage.
Latitude, hein. L'apostrophe.
Non, non. Latitude, voilà, le mot normal. Où il raconte en fait tout son voyage. Effectivement, il part, je crois, de l'ouest de l'Afrique, donc au bord de la mer, quoi. Il part en bateau, quoi. Son voyage démarre en bateau. Et puis après, il atteint l'Amérique du Sud. Traverse toute la forêt équatoriale. Voilà, il lui arrive plein de trucs horribles entre les gens qu'il rencontre. Voilà, certains sont sympas, d'autres un peu plus violents, les animaux sauvages, voilà, les trucs empoisonnés. Il donne plein d'astuces, par exemple de survie dedans, enfin il explique plein de choses. Il y a aussi son ressenti, on va dire, mental, hein, sur son expérience. C'est un mec qui est quand même costaud dans sa tête, hein. Il a des couilles, mais pas que, quoi. Il est vraiment très 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 fort, quoi. Il a le moral en toutes circonstances. Et donc il a fait, puis alors sans parler des problèmes de visa, enfin tout un tas de trucs, donc il raconte toutes ses galères. Et donc il a fait son tour d'équateur comme ça, enfin voilà, son tour de latitude zéro à pied. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert, j'ai dévoré le bouquin, j'ai vraiment adoré. Et puis je suis tombé sur un autre qu'il a sorti qui s'appelle Objectif. Non, je confonds, pardon. Qui s'appelle
Objectif Lune.
Non, j'ai un trou de mémoire, mais qui s'appelle, je sais plus comment, je vais vous le retrouver, mais c'est pas grave.
Longitude zéro, non, c'est pas la suite.
Non, qui s'appelle Conquérant de l'impossible. Et en fait, il a fait, on va dire, encore un tour du monde. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant qu'il part faire ça, il laisse femme et enfant à la maison. Et donc, pendant un an et demi, il voit pas ses gosses, il voit pas sa femme. Alors, il y a des spots où il se donne rendez-vous, par exemple, voilà. Ils disent, bon, bah, je serai là à peu près dans ces eaux-là, je serai en Russie, à tel endroit, machin, viens me rejoindre, etc.
Oh, la vie de famille.
Mais ouais, la vie de famille, voilà. Et c'est vrai que sur, en tout cas sur la Titus Zero, on voit vraiment tous les paysages. Ils traversent le désert, ils traversent la forêt, ils traversent les océans. Enfin, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Et imagine traverser les océans juste
à pied,
avec une voile, quoi, comme ça, dans un tout petit bateau à pied, ouais, à pied dans un tout petit bateau comme ça, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Et donc il s'est dit, je vais faire la même chose. Donc il s'est reposé un peu, hein. Donc son tour du monde là, il a duré de 99 à 2000, un an et demi à peu près, et il s'est dit, je vais faire pareil en 2002. Il s'est dit, je vais faire le tour du monde, mais au niveau du cercle polaire. Donc double challenge, parce que déjà il s'accaille, il fait froid, en plus c'est quasiment que de la flotte, et puis donc pour préparer ça, il est parti, enfin il a voulu rallier en tout cas le pôle Nord, mais le point zéro tout en haut du pôle en 2002. Sauf qu'il s'est planté, enfin il a dû abandonner parce qu'il a eu des gelures aux doigts, et je crois qu'il a dû perdre des petits bouts de doigts, etc. Donc il a abandonné, mais quelques temps plus tard, il a enchaîné son tour du cercle polaire. Et là c'était encore un deuxième truc de malade pour moi au niveau de son bouquin, parce que
d'accord.
Il perd quoi, à pied, etc.
C'est très bizarre,
c'est trop long.
Non, c'est très bizarre, t'as le son qui coupe de temps en temps pendant 3-4 secondes et ça revient.
Ouais.
C'est un peu étrange.
Ouais.
Bon, bah, bref, continue, hein, c'est pas grave.
Voilà, et donc là, bah, la même chose, il traverse le Canada, enfin, vraiment au niveau du cercle polaire, donc voilà, et les animaux, le froid surtout, c'est un truc de malade, quoi, les ours blancs, il y a une ou deux fois, il manque de mourir, de tomber dans la neige, et de se dire que voilà, il se sent bien là, et qu'il va se laisser partir, etc., puis on pense à sa femme.
Je sais que ça m'est arrivé, ça. Hein.
Ah ouais? Où ça?
J'étais allé faire du ski, j'avais peut-être 13 ans, et j'étais allé en... Non, c'était à Chypre. Faire du ski à Chypre, bref.
À Chypre.
Et oui, ouais, figure-toi. Sauf que, évidemment, il faisait froid en haut de la montagne. Moi, j'étais en jean et en pull, comme un abruti. J'arrive en haut, j'avais jamais skié, j'avais un peu peur. J'arrive en haut, je me mets, j'étais un peu fatigué, je m'adosse à un arbre et je commence à m'endormir. Je me dis, ah ouais, c'est bien là, c'est cool, je vais peut-être piquer un petit somme. Ouais. Et en fait, ils ont été obligés, mes amis ont été obligés d'aller appeler un garde machin qui m'a descendu rapido et qui m'a mis en face du feu pour que je me dégèle.
Ouais.
Bref, enfin, on s'en fout. Voilà. Moi aussi, je suis aventurier, tu vois. L'Amazonie, tout ça. Pff, moi, j'ai fait la montagne à Chypre, ok.
Et donc, je continue un peu sur l'histoire. Donc voilà, donc on a pareil ce ressenti de lutte contre le froid. Et par exemple, un moment, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'il tombe dans l'eau. Par exemple, s'il tire un traîneau, hein, faut le savoir, il tire un traîneau avec tout son bordel. Donc des fois, il y a des crevasses à passer avec le traîneau, c'est très, très chaud. Et bon, quand même, ses vêtements, enfin, c'est une lutte contre la montre pour pouvoir survivre, etc., et pas geler et monter sa tente en quelques secondes, en quelques minutes, pour pas mourir sur place, quoi. La traversée de la Russie, c'est absolument génial, parce que voilà, il parcourt des kilomètres sur le pipeline qui traverse toute la Russie, qui transporte le pétrole ou le gaz, je sais plus, sans se faire choper par les gardes, etc., parce qu'il a pas le droit d'être là forcément, mais ça l'aide à traverser toute la toundra, etc., qui sont vraiment impraticables, plus les animaux sauvages. Enfin ouais, je vous passe le truc. Voilà, donc ce mec-là est complètement dingue. Il a d'ailleurs pété le record de traverser du Groenland en 15 jours à cette occasion. C'est vraiment une brute, quoi. Et il a recommencé en 2006, donc après il est rentré chez lui, sa femme, machin. Hein, très content de revoir. Il a recommencé pour rallier cette fois le pôle Nord, parce qu'il n'aime pas rester sur un échec. Donc là, il s'est dit, je vais retourner jusqu'au pôle Nord. Mais cette fois, il est parti avec un ami dont j'ai pas le nom, parce qu'il, pareil, il est nordique, hein, comme ton chanteur de la semaine dernière. Là, c'était un peu différent. C'est-à-dire, j'ai moins bien aimé ce bouquin-là, parce qu'effectivement, il est pas tout seul. C'est moins un combat avec lui-même. On sent que c'était peut-être un peu tendu avec le mec, mais en même temps, quand on est dans des situations un peu extrêmes comme ça, même si tu pars avec ton meilleur pote, ça peut être vite tendu.
Sans doute.
Voilà, genre de choses. Et puis bon, après j'ai pas tout suivi, mais il continue ses aventures. Je sais que de 2008 à 2012, il était sur un bateau, il faisait le tour du monde, etc. Mais bon, moi les deux bouquins que je vous recommande, enfin surtout Latitude Zéro, c'est autour de l'Équateur. Et puis ce fameux Conquérant de l'impossible autour du cercle polaire, c'est vraiment deux bouquins que je vous conseille qui se dévorent, quoi. Vraiment c'est un truc de fou, quoi.
Ok, voilà. Super. Donc
c'est de l'aventure, c'est de la... Voilà, j'ai déjà lu plein de livres de tour du monde comme ça, où il y a plein de bobos qui partent faire le tour du monde en vélo ou en tracteur ou, ou à pied, etc. Qui voient plein de choses, mais qui sont très en contact avec les gens, etc. Enfin voilà, qui traversent beaucoup de trucs. Lui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il, bon, il rencontre des gens, mais il traverse quand même des déserts entiers où il lutte contre la solitude, contre la faim, contre le froid, etc.
C'est un vrai aventurier.
C'est un vrai, ouais, c'est un pur indur.
Et d'accord. Il a essayé la ligne 13 du métro parisien parce que c'est un vrai défi aussi à prendre.
Il a essayé, on n'a plus de nouvelles.
Ah oui, c'est ça en fait. C'est sa plus grosse épreuve.
Voilà.
Bon.
Ah, bah, merci. Il bouge, hein. C'est un mec qui bouge.
Voilà. Donc, merci Corben.
Avec un H, Horn.
Pardon ?
Horn. Non, j'ai Mike Horn avec un H.
Très bien. Merci Corben. Pascal, c'est à toi.
Eh bien, moi, je vais terminer avec quelque chose de beaucoup plus intimiste, puisqu'il s'agit du film Garde à vue, un film français de 1980, réalisé par et écrit par Claude Miller, avec des dialogues de Michel Audiard, et plus intimiste tout simplement parce que c'est un huis clos qui se passe le soir de la Saint-Sylvestre, avec Lino Ventura, Michel Serrault et Romy Schneider, et en fait, c'est l'enquête de l'inspecteur qui est joué par Ventura, qui va essayer toute une nuit de savoir si oui ou non Michel Serrault, qui est un notaire de province, est coupable du meurtre d'un enfant. Et voilà, et Romy Schneider joue sa femme. Et pourquoi je vous parle de ce film, pourquoi j'ai choisi Garde à vue? Tout simplement parce que ça fait partie de ces films français qu'on connaît peu, ou en tout cas du moins qui ont vieilli, donc on n'a pas souvent l'occasion de les regarder, ou en tout cas de se dire tiens, ça serait sûrement un excellent film. Et je pense que c'est un des meilleurs films français, ou en tout cas là où le cinéma français est capable de faire des prouesses, c'est-à-dire dans le huis clos, dans la situation du dialogue, de la discussion à deux. Je pense que c'est un peu l'ancêtre d'un tas de choses, comme pourrait l'être Kaamelott, voyez-vous, dans ce côté conversation autour d'une table. Et voilà, je vous conseille ce film, c'est Garde à vue. Il y a eu un remake américain qui est une catastrophe parce qu'ils n'ont rien compris. Et alors un autre conseil, je vous conseille surtout de ne pas lire la page Wikipédia du film parce que je crois que le type n'a pas compris, il raconte toute l'histoire, donc c'est un spoil intégral. D'accord. Et là, il faut vraiment démarrer juste sur cette idée de voir Michel Serrault se poser à une table et commencer à se faire questionner par Ventura, qui est assisté de Guy Marchand. Exceptionnel Guy Marchand dans ce film, vous verrez, un peu une sorte de Jason Bourne à la française de l'époque.
Oh,
ah, non, non,
c'est une belle promesse.
On veut du rêve.
Voilà, c'est vraiment une magnifique enquête. Voilà, c'est une chance phénoménale. Alors bon, Claude Miller est mort il y a pas très longtemps, il est mort en 2012. C'est dommage parce que finalement c'est son film, ça restera son grand film. Et c'est dommage.
Et donc tu dis qu'il tient quand même la route depuis quoi, ça fait 30 ans maintenant.
Ah ouais.
Il reste
il a pas été égalé.
Mais c'est Jason Bourne quoi. C'est ça.
Non mais c'est franchement, je vous jure,
c'est pas un film d'action hein.
Ah non, c'est qu'un dialogue autour d'une table, c'est une garde à vue en fait.
D'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, Garde à vue de Claude Miller, film français dont je pense tout le monde a au moins entendu parler, mais on est peut-être, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu aujourd'hui. Mais... Donc voilà, peut-être à voir ou à revoir. Merci Pascal. Déjà la fin de l'épisode. Et donc vous savez que c'est le moment que, en fait, tout le monde attend, et c'est le moment que tout le monde, pour lequel tout le monde se tape ses recommandations un petit peu fastidieuses, juste pour avoir les informations sur les endroits de l'internet où on peut vous retrouver tous les deux. Donc, plus de suspense, dites-nous tout. Pascal, où peut-on te retrouver sur internet?
En grande partie sur Twitter, où je raconte que des bêtises. Pascal m'habille tout attaché. Et puis le podcast où je dessine, j'improvise en musique que vous n'entendez pas, qui s'intitule Imprographe, PH à la fin. Voilà, avec mon camarade Bob Lefeutre.
Tu dis que c'est un podcast, il est disponible genre en téléchargement podcast, ou c'est juste sur YouTube?
Il est disponible sur... Vous pouvez le voir sur YouTube, Dailymotion, mais il est aussi sur iTunes.
Très bien, d'accord. Ok. Et ben donc, c'est vraiment un podcast, ça va. Corben.
Eh bien, moi, comme Pascal, sur Twitter, hein, sur Corben, sous le pseudo de Corben. D'ailleurs, je te suis pas, Pascal, enfin, je te suis. Hein, si tu racontes des conneries, moi, ça m'intéresse. Et puis, sur mon blog, corben.info.
Super, merci à tous les deux. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter. Mais encore plus important, vous pouvez retrouver les notes de l'émission et des podcasts et d'autres podcasts que je produis sur le site frenchspin.com. Donc si vous avez des positrons, des recommandations que vous n'avez pas vraiment entendues ou dont vous n'êtes pas sûr de la manière dont on les épelle, vous pouvez aller sur le site et vous aurez non seulement toutes les recommandations de cet épisode, mais tous les épisodes précédents aussi. Donc ça peut être bien utile parfois. On vous remercie tous et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao à tous.
Salut, salut. Salut.